Collé sur ce qui se passe ici et ailleurs.
The White House confirms the United States is now set to impose a 104% tariff against Chinese goods.
Les enjeux qui te concernent.
Taxe au chat, c'est la bullshit.
On enlève ça?
On en parle plus tard.
Le but gagnant de la veille.
Cross-eyed Ovechkin fires! Score! Alex Ovechkin is the greatest goal scorer in the history of the NHL.
La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ça déboule les textos.
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir Québec. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Aujourd'hui, il y a plu et il y a neigé. Et ce soir, il pleuvra et il neigera à certains endroits, minimum de moins 2 degrés. Avec le refroidissement éolien cette nuit, ça va être une température ressentie possible de moins 8 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, un ciel dégagé en matinée avec des rafales à 50 km/h, maximum de 7 degrés. En soirée, un ciel dégagé avec un minimum de moins 6. Vendredi, congé de Pâques, ennuagement, c'est ce qu'on nous mentionne pour ce qui est de vendredi avec un maximum de 12. Samedi, de la pluie, maximum de 12 degrés. Et dimanche, ce sera des averses avec un maximum de 7. Et si je pousse plus loin, parce que certaines personnes seront en congé aussi lundi, ben ce sera ensoleillé avec un maximum de 14 degrés. Le plan de ce soir pour ce qui est du podcast de Marceau Soir, c'est l'excellent Guillaume Dulude de Psycom, un gars avec qui j'adore jaser de psychologie. Donc, il sera avec nous dans les prochaines seconde. On le retrouve à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Salut Guillaume Dulude, comment ça va?
Hey, ça va bien, merci de l'invitation, Yannick.
Tellement content de te jaser, puis les auditeurs vont avoir un plaisir de t'entendre pendant 60 minutes parce qu'on va parler de psychologie et à chacune de tes apparitions sur nos ondes, on a toujours d'excellents commentaires. Puis je sais que tu es très occupé, fait que je te remercie d'être avec nous ce soir dans le podcast de Marceau Soir. Bon, il y a le fameux débat des chefs ce soir, puis je regardais tantôt de quoi on allait parler au fameux débat des chefs, et ce que je comprends, c'est que ça va être uniquement le gros orange ou peut-être d'autres petits sujets au travers, mais en gros, ce que les Canadiens ou les Québécois veulent savoir, c'est comment le prochain chef du parti, comment le premier ministre qui va être élu va négocier avec le grand orange de l'autre côté. C'est tellement anxiogène tout ce qui se passe là actuellement que c'est comme si on avait éradiqué tout ce qui était important pour nous, c'est-à-dire l'économie, la santé, tous ces trucs-là. Maintenant, on rentre dans une guerre avec un seul individu parce qu'on a peur de cet individu-là. C'est assez particulier. Tu dois le vivre un peu aussi. Tu dois le voir sur les réseaux sociaux à quel point les gens sont stressés?
Oui, je pense pas que je vais apprendre grand-chose à grand monde là-dessus. Je pense que Donald Trump, dans sa personnalité, dans sa stratégie, c'est prendre toute la place. Okay? Non seulement dans sa personnalité, mais il a le pouvoir de le faire. Donc, il prend toute la place, puis il va tester plusieurs choses. Il va lancer quelque chose dans l'eau, il va regarder comment ça répond pendant que le monde se bat là-dessus. Il se vire de bord, fait d'autres choses. Donc, tu sais, c'est une façon de jouer qui est propre à lui. Donc, c'est sa propre game, comme il dit. Moi, je suis convaincu qu'il y a bien du fun à faire ça, mais je pense pas que le reste de la planète a tant de fun que ça en ce moment, parce que en ce moment, la stratégie de la planète, c'est comment s'adapter et lutter contre Donald Trump. Et la question que peut-être ça va être abordé dans le débat des chefs, peut-être la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est ça la bonne stratégie de dire on va mettre toute notre stratégie sur comment s'adapter à Donald Trump? Bref, on pourrait en parler très, très longtemps, mais il y a des choix à faire. Est-ce que c'est ça vraiment la vraie question ou peut-être que c'est le déclencheur de d'autres questions qu'on serait rendu à se poser?
Donald Trump est assez particulier. Moi, j'ai lu son livre « The Art of the Deal », un livre qui a été lu dans les années 80. C'est un fin manipulateur, c'est un homme d'affaires qui a visiblement réussi puisqu'il a accumulé autour de 2-3 milliards de dollars. Il est maintenant président des États-Unis pour une deuxième fois. Est-ce qu'on est comme ça ou on apprend à devenir comme ça, un fin manipulateur? Comment on fait pour être excellent en affaires? J'imagine que c'est pas inné. Il y en a qui nous laissent croire des fois « Ah non, moi je suis né avec la bosse des affaires ». Mais en bout de ligne, là, je veux dire, on regarde Donald Trump, ses agissements et tout ça, puis je me dis, tabarouette, il y a une force herculéenne de pouvoir mettre le chaos partout autour de lui pour déstabiliser, puis après ça, négocier selon ses propres valeurs à lui ou ce qu'il veut réellement. C'est complexe, ces individus-là. Est-ce qu'on est comme ça où on se forme, puis... Ces gens-là, sont-ils capables d'avoir des sentiments? Parce que moi, je ne dormirais pas de la nuit à être lui.
Bien, premièrement, j'avoue que tu me surprends avec ce sujet-là. Je ne pensais pas qu'on allait là ce matin, donc je vais faire vraiment attention aux mots que je vais choisir, mais parfait. Je suis toujours prêt à un défi. Autant le relever avec toi. Alors, il y a comme un mythe autour de Donald Trump, c'est-à-dire l'analyse de cette figure-là. Qui est-il? OK? Tous les grands personnages historiques qui ont fait des grands biens, surtout du grand mal, on veut savoir qui ils sont, de quoi sont composés. Puis évidemment, la pensée populaire fait en sorte que quand on n'aime pas une personne, on met toutes les étiquettes possibles, les plus négatives possibles. Comme par exemple, c'est un tyran narcissique, c'est un ci, c'est un ça, qu'il y a différents termes. Mais la réalité, c'est que Donald Trump, si on le compare à d'autres leaders internationaux dont certains on parle plus, dont on parle vraiment pas, je peux vous assurer que sur le plan psychologique, c'est loin d'être le pire. Et ironiquement, je le sais que là, je vais dire ça, puis le monde ne va déjà pas aimer ça parce que je vais dire des choses positives relatives à la personnalité de Trump.
Ah, mais c'est tout à ton honneur en passant de le faire, là. Je veux dire, moi, Donald Trump me laisse complètement indifférent. Par contre, je trouve que c'est un personnage qui est franchement intéressant parce qu'il est autant aimé d'un côté que détesté de l'autre. Et je me dis toujours, mais comment ces gens-là ont réussi à se former au niveau psychologique? Parce qu'il y en a bien d'autres qui auraient abandonné bien avant de se rendre où lui s'est rendu.
Oui, puis j'oublie pas le sens de ta question initiale, c'est-à-dire est-ce qu'on le devient, est-ce que c'est génétique, c'est neurobiologique. Donc, c'est pas le plus narcissique qui existe. Il existe beaucoup plus narcissiques que lui. Pour vraiment se carrer dans du gros narcissisme pathologique, ben, il faut vraiment être dépourvu d'empathie. Puis Donald Trump a de l'empathie. Il aime les enfants, il aime serrer la main du monde. Et ça a l'air drôle à dire parce que quand on le voit de loin, ça a l'air comme si c'est juste un tyran, mais lorsqu'on inspecte d'autres volets de sa personnalité, il est capable d'empathie. Un vrai tyran, comme il y en a plein d'autres qui gouvernent d'autres pays, ils font absolument pas démontrent pas ce genre de comportement-là. Maintenant, Donald Trump, c'est sûr que c'est Donald Trump, c'est une personnalité particulière, ce sont des individus rares. Il y a des choses qui sont apprises, il y a des choses qui relèvent de la personnalité. C'est difficile de tracer la ligne précise entre un et l'autre, surtout quand je ne connais pas tout Donald Trump. Par contre, ce qui est sûr, c'est que son énergie, hein, avec l'âge qu'il a, il y a une quantité d'énergie qui est honnêtement spectaculaire. Rendu à cet âge-là, normalement, on n'est plus dans ce beat-là. On n'a plus faim tant que ça, de relever des défis, bouger les choses de place, s'obstiner, se battre. Il y a encore cette énergie-là, ce qui est absolument rare. L'énergie qu'il a, ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie d'où il tire sa motivation, et ça, ce n'est pas appris. C'est un gars qui a de l'énergie, il a du gaz tout le temps. Aussi, c'est un gars qui a probablement peu d'émotions négatives parce que c'est pas un gars qui va stresser facilement. C'est pas un gars qui va avoir de la colère facilement. C'est pas un gars qui va stresser facilement. Il a pas peur facilement. Un des exemples que j'ai trouvé vraiment spectaculaire dernièrement, c'est quand il y a eu sa tentative d'assassinat, il s'est fait frôler l'oreille. Environ 10 secondes après qu'il se soit dégagé de ses bodyguards, il se lève debout, il est tout fier, il lève le poing dans les airs. Il est tout content. Normalement, si tu es normalement constitué d'émotions négatives, tu ne penseras pas à ça. Tu vas penser, est-ce que je suis correct? Il y en a-tu d'autres? J'ai eu peur. T'sais. Lui, la première affaire, c'est bon, phew, il est déjà ailleurs.
Le poing dans les airs.
Lui, il est là pour jouer. Une des grandes forces qu'il a, qui est capable, ce qui le rend extrêmement redoutable à court et à long terme, c'est qu'il est très dur à user. Si un leader était plus sensible aux émotions négatives, tu l'aurais à l'usure. À un moment donné, un leader ou une personne normale va tirer sa référence parce que c'est trop d'attaques. Tu te fais poursuivre à toutes les deux secondes. Tu es tout le temps en risque. Mais lui, il y en a très peu d'émotions négatives, ce qui fait en sorte qu'il est très dur à déranger. Fait que ça, c'est une force qu'il a. Puis l'autre force, mais c'est son extraversion qui est absolument redoutable. Il est rapide, psychologiquement parlant. Okay? Il est rapide sur le plan cognitif, sur le plan de l'intelligence, mais ouais. Il est aussi très verbal. Son extraversion, il est dans le tapis. Fait qu'il y a tout le temps du fun en interaction. Même si tu essaies de le piéger, lui prend ça comme un jeu. Fait que tu combines peu d'émotions négatives, beaucoup d'extraversion, ça fait une méchante machine à débattre puis à survirer sur un dissent. Puis quand même, tu le coinces avec une affaire puis une autre, lui, il joue. Donc, c'est très dur le rendre défensif puis le créer en retrait. Ça fait en sorte que sa machine psychologique de base a comme des caractéristiques qui sont anormales dans le sens que ça s'écarte de la moyenne. Après ça, ben, je pense que oui, il a appris sur comment faire des deals très jeune. Il est dans un environnement business depuis qu'il est très jeune. Donc, c'est un jeu qu'il a appris, hein, qui passe la business, puis la politique, puis les représentations publiques. Il y a un jeu là-dedans. Puis lui, il aime le show business. Fait que ça ne dérange même pas d'avoir l'attention sur lui. Ça ne dérange même pas que quelqu'un trouve quelque chose de laid sur lui. C'est comme... Fait qu'il aime trop l'attention. Il est bien en public. Donc, il est comme immunisé aux attaques. Fait que c'est vraiment un gars qui est redoutable. Puis pour avoir côtoyé beaucoup de gens qui ont fait de la business avec Donald Trump, c'est pas facile, les amis, dealer avec Donald Trump pour des deals qui sont beaucoup plus simples qu'administrer un pays. Mais juste faire des deals simples, Donald Trump, il est extrêmement redoutable. C'est pas facile de transiger avec lui. Puis personnellement, c'est pas mon genre de préférence là, dans le genre de homme d'affaires. Mais dans les faits, le feedback est assez rough à son égard côté business.
Guillaume Dulude, tu es doctorant en psychologie, recherche et clinique à l'Université du Québec à Montréal. En 2025, bon, on peut dire que la psychologie, on en sait beaucoup sur la psychologie, mais les études continuent, puis peut-être que d'ici 100 ans, 200 ans, on sera encore rendu beaucoup plus loin au niveau de la psychologie qu'on l'est aujourd'hui. Mais est-ce que la psychologie est... Quand on dit que quelqu'un est fort psychologiquement ou quelqu'un est faible psychologiquement, est-ce qu'on sait si c'est dans notre ADN? Est-ce que ça nous a été transmis par nos grands-parents, nos parents, nos arrière-grands-parents? C'est-tu dans notre sang si on est fort au niveau psychologique ou ça ne l'est pas du tout?
Bon, alors, quand on dit fort, premièrement, ça peut vouloir dire beaucoup de choses dépendamment des définitions. Mais je vais donner une définition assez conservatrice, puis je pense qu'il serait adopté assez unanimement dans le monde de la psychologie. La force psychologique, c'est la capacité de s'auto-réguler et de s'adapter à l'environnement changeant. Quand on parle de force, on parle d'habileté d'adaptation. L'adaptation, c'est la clé de la force en psychologie. Et l'opposé de l'adaptabilité, l'opposé de la flexibilité, c'est la rigidité. Une personne qui est rigide, c'est une personne qui est par définition fragile. Donc, elle peut rayonner dans un certain contexte tant et aussi longtemps que les paramètres ne changent pas, mais ceci n'existe pas dans la vie réelle. Dans la vie réelle, ce n'est qu'une continuité de variables et de circonstances et de forces qui s'opposent. Il faut comme vivre à travers ça comme humain, tirer son épingle du jeu, ce qui nécessite plusieurs forces psychologiques qui relèvent de la flexibilité ou de l'adaptation. Bon, donc, maintenant... Pour répondre à ta question, il y a effectivement des prédispositions qui avantagent cette flexibilité-là et il y a des prédispositions qui désavantagent cette flexibilité-là et à ceci est en interaction avec l'environnement, ça veut dire où tu as grandi, ton éducation, ton style de parentalité, à quoi tu as été exposé, tes expériences de vie, les événements qui t'ont marqué. Donc, c'est toujours l'éternel débat nature versus environnement. Donc, il y a des personnes qui ont un meilleur équipement de base, naturellement, pour être fort psychologiquement, c'est-à-dire être capable de s'adapter facilement. Comme par exemple, des émotions négatives qui sont plus dans la moyenne plutôt qu'élevées, ça aide. Avoir un peu plus d'extraversion, ça aide, parce que tu peux t'adapter aux autres, tu peux manifester ce que tu veux, ce que tu ne fais pas, tu peux mettre des limites plus facilement. Donc, il y a des facteurs qui vont aider une personne à s'adapter dans un contexte en particulier. Et après ça, ben, il y a ce que tu as appris dans la vie, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris pour dealer avec qui tu es? avec ton style de personnalité, avec ton équipement de base. Et donc ça, tu as une grande marge de manœuvre sur ce qu'on appelle l'apprentissage. Donc, c'est un mix des deux. Donc, évidemment, une personne qui a des facteurs favorables sur le plan neurobiologique, plus des facteurs favorables sur le plan de l'éducation et des expériences, bien, ça fait une méchante, une personne hautement fonctionnelle qui a des grandes forces psychologiques. Maintenant, tu peux avoir l'opposé. Tu peux avoir des plus grandes vulnérabilités psychologiques. Tu peux être plus sensible aux émotions négatives. Tu peux avoir tendance à plus être agréable, donc vouloir faire plaisir aux autres jusqu'à temps que tu aies ton approbation, ce qui n'arrive jamais. Tu peux être moins organisé dans la vie, donc une moins grande consciencieusité. Fait que c'est difficile pour toi de poursuivre des objectifs à moyen et long terme qui sont les plus importants dans la vie plutôt que le court terme. Donc, il y a des traits qui vont être plus vulnérables. Puis après ça, tu peux avoir un environnement qui est plus difficile. C'est-à-dire, tu n'as pas eu des parents qui t'ont montré comment être courageux, comment faire face à l'adversité, comment apprendre, comment surmonter des obstacles, comment gérer des distracteurs. Donc, ça se peut que tu n'as pas reçu cette éducation-là. Bien là, c'est deux fois plus difficile pour toi.
Est-ce que le confort, dans une société, est-ce que le confort est un frein, justement, au développement psychologique? Puis je vais t'expliquer ma question, là, pour être sûr que tout le monde se comprenne puis que les auditeurs nous suivent. Tu sais, en Occident, on est gâtés, là. Toi, tu vas régulièrement faire ton tour en Afrique. J'imagine que tu côtoies des communautés qui... c'est pas les communautés les plus riches de la planète, bien entendu. Ouais. J'ai l'impression qu'eux ont une plus grande résilience, peut-être sans le savoir, sur les petits aléas de la vie. Tandis que de notre côté, comme on est né dans le confort, à partir du moment où on perd, je sais pas moi, pour une raison ou une autre, notre maison, parce qu'on a perdu notre emploi et tout ça, ça peut rapidement dégénérer au niveau de notre tête parce que... on ne comprend plus rien, ça ne nous est jamais arrivé de notre vie. Tandis qu'eux, ben, juste d'avoir une maison, ils n'étaient même pas capables de l'espérer. Ils l'ont eu, ils appèrent, ils vont peut-être s'en bâtir une autre. Le confort est-il un frein à notre développement psychologique?
C'est vraiment une bonne question. Je te dirais que ça serait les deux. C'est-à-dire, on a réussi à être confortable comme ça dans une société hyper technologique, hyper confortable sur le plan physique.
Ouais.
Parce qu'on a travaillé bien fort comme humanité. Ça fait des générations et des générations et des milliers d'années qu'on travaille pour créer ça, ce qui est un succès. C'est incroyable le monde qu'on a créé à partir d'idées. On n'a pas significativement changé génétiquement depuis quelques milliers d'années, mais en étant qui on est, en créant de la connaissance, puis de la conscience, puis de la technologie, à force de travailler fort, on a créé ça. C'est extra, c'est un miracle. Ça veut dire qu'en 12 000 ans, on a commencer à écrire sur une tablette de glaise, 12 000 ans plus tard, on s'en va sur Mars. C'est pas long. C'est absolument incroyable. Donc, good job, humanité. Puis là, on est là aujourd'hui, mais là, on est dans un monde hyper confortable, hyper technologique. Maintenant, il y a la dimension virtuelle qui prend de plus en plus de place. Donc, ce confort-là fait en sorte qu'on n'a plus à se battre pour notre survie physique. On sait qu'on va manger la plupart du temps. Les chances sont très faibles pour qu'on meure le lendemain. Donc, tous les dangers physiques ont été écartés de beaucoup, ce qui fait en sorte que notre cerveau est beaucoup plus disponible pour ce qu'on appelle des processus réflexifs internes. Donc, on peut réfléchir plus longtemps. On peut avoir des idées. On n'a pas besoin de regarder dans l'environnement s'il y a une menace. On peut dire non, c'est stable l'environnement, puis on peut réfléchir, avoir des nouvelles idées, faire des prises de conscience. Donc ce confort-là augmente la capacité de réflexion, de conscience interne. Maintenant, ça vient avec un désavantage, c'est-à-dire on devient tellement confortable que le cerveau se déshabitue à la contrariété et ou à l'inconfort. Donc, on est plus sensible aux inconforts, aux contrariétés, et la flexibilité devient moins naturelle. C'est quand on souffre, on calcule qu'il y a quelque chose que ça ne se peut pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose de pas correct là-dedans. La société s'est trompée. Moi, je ne devrais pas vivre ça. Alors, quand on souffre maintenant, on prend pour acquis que, hey, je suis victime de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a manqué de jugement envers moi. Il y a quelqu'un qui m'a volé quelque chose. Il y a une injustice à quelque part. Ça, c'est le début des problèmes. Parce que si ce n'est pas ton problème, les processus de flexibilité, d'adaptation ne peuvent pas arriver. Il va y avoir que le processus d'exigence de tes droits. Donc, plus tu es dans un mindset de « Hey, je ne devrais pas souffrir, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de quelqu'un qui cause ça, donc je vais réparer justice », plus tu travailles à remettre la justice selon ta propre définition en fonction de ta souffrance, moins tu es dans des processus d'apprentissage, de résilience, de fameuse force psychologique dont tu parles. On est là-dedans en ce moment. C'est un mix de climat social, climat politique et de surabondance technologique qui fait en sorte qu'on ne sait même plus où donner de la tête tellement que l'infinité des possibilités sont là devant nous. Donc, on est moins tough qu'avant et c'est pourquoi on souffre de plus en plus psychologiquement en ce moment.
Tu sais, on se drogue de plusieurs façons. Là. Moi, je ne prends pas nécessairement de l'alcool. Bon, je prends un peu de Coors Light, mais mes chums me disent que ce n'est pas de l'alcool. Je fume pas de cigarettes, donc je ne suis pas addict à la nicotine. Je prends pas de drogue là, comme le cannabis et tout ça. Moi, je prends de l'alcool une fois de temps en temps, mais il y a une drogue que je prends régulièrement dont j'aimerais tellement me libérer, Guillaume Dulude, c'est Internet. C'est de rester constamment en contact avec mes amis qui, eux autres, veulent rester constamment en contact avec moi. C'est le silence que je tolère peut-être un peu moins bien. Fait que je me mets de la musique, j'écoute Netflix, j'essaie de lire des trucs qui pourraient peut-être m'intéresser sur les réseaux sociaux. Je me drogue de cette façon-là. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens sont un peu comme moi. Là. Dès qu'il y a le silence, ils sont en état de panique, puis ils se cherchent. Là. OK, ça va être avec quoi? Je vais me geler le cerveau dans les prochaines secondes. On réfléchit plus avec notre tête. On ne prend plus la peine d'arrêter. J'ai une de mes collègues, Audrey, que tu as déjà possiblement rencontrée dans l'open mic. Oui. Elle a fait une retraite silencieuse de 3 jours. Et son premier réflexe à la fin de cette retraite silencieuse-là, ça a été de prendre son cellulaire, de le regarder avec dédain en disant « Je suis aux prises avec ce fameux cellulaire-là, ouais. c'est la drogue. » Puis la dernière chose qu'elle voulait, c'est de le récupérer, ce cellulaire-là, puis de recommencer justement à se doper avec ça. Mais parce qu'elle travaille avec moi, elle n'a pas le choix, là. Veut pas, il faut qu'elle reprenne son cellulaire. Mais on se dope, Guillaume, puis j'ai l'impression qu'au niveau psychologique, on s'affaiblit avec toutes ces affaires-là.
Bien, un bon guideline général, c'est plus un cerveau est dépendant de quelque chose, peu importe ce que c'est, plus on est fragile et plus on est anxieux. Donc, en gros, c'est ça la règle. Donc, ce n'est pas compatible la dépendance et la force et l'autonomie émotionnelle. Ce n'est pas compatible. Donc, une des drogues qui est une drogue à la dopamine, c'est le cellulaire, les médias sociaux, le divertissement en ligne. Tu sais, ça fait partie du monde. C'est pas juste pour aller sur Facebook. Tout est un peu là-dessus. Pour travailler, c'est là-dessus. Communiquer avec tes collaborateurs, tu sais, c'est là. Moi, la solution pour ça, c'est que quand essayer de se parler, de dire « Hey, là, il faudrait que j'arrête, là », c'est impossible. Le discours verbal ne peut pas compétitionner contre la drogue. Oubliez ça. Donc, pour ceux et celles qui se trouvaient faibles, parce que ça ne marche pas, vous essayez de vous automotiver dans votre tête. Faites-vous-en pas, c'est impossible. C'est comme si essayer. C'est comme si on veut raisonner un héroïnomane de dire hey, là, rappelle-toi, c'est pas bon pour toi, ça, l'héroïne. Ouais, mais ça, c'est une pensée. Puis le cerveau, il ne parle pas les pensées. Il parle un paquet d'autres langages très cellulaires. Ta pensée verbale, ça peut pas te donner la force de te priver de cette drogue-là. Et la façon de se priver, de faire ses sevrages, il faut que tu mettes la hache là-dedans physiquement. Il n'y a pas d'autre façon. Donc, il faut que tu ailles en sevrage, en privation. Là, tu peux reprendre le contrôle un peu, puis tu gères tes privations. Mais il faut que tu le fasses pour vrai, tu sais. Moi, ben, c'est pour ça que je fais beaucoup de plein air, puis je minimise. Quand je m'en vais en expédition, je n'apporte pas ce genre d'instrument-là parce que ça me prend mon espèce de sevrage. J'ai besoin de récupérer cette énergie-là. Mais si je l'ai au bout des doigts, moi, je vais me trouver une raison pour l'utiliser, là, mon cellulaire. 10 millions de raisons qui sont toutes bonnes. Il n'y en a pas de pas bonnes, vraiment. Mais c'est comme, OK, mettons, tu veux t'entraîner, tu veux perdre 50 livres. OK, mais tu ne peux pas mettre des chips chez vous. Tu ne peux pas mettre de l'alcool chez vous. Mais ça ne peut pas rentrer chez vous. Essaye pas de faire ça, c'est impossible. Tu vas te lever la nuit, tu vas avoir faim, tu vas avoir un craving, tu vas dire demain je commence, demain c'est sérieux, aujourd'hui c'est spécial. Tu vas tordre la réalité pour que le cerveau aille chercher le renforcement. Fait que si tu veux manger bien, être en forme, il ne faut pas que ça rentre chez vous. C'est aussi simple que ça. Ah, je ne veux plus boire d'alcool. Il ne faut pas que ça rentre chez vous. Il faut que tu te, forces par autorité de ne pas avoir accès à ça. Parce que c'est trop fort. Et ça, ça fait partie de autant la faiblesse de notre système, autant la force de notre système. On est tellement gâtés sur le plan des renforcements puis des saveurs puis de ce qui te fait sentir bien à court terme. C'est tellement puissant que écoute, le système est fait pour droguer le cerveau. Donc, tu sais, un peu d'empathie. Puis, isolons-nous un peu de temps en temps.
Mais quand les gens voyagent avec Guillaume Dulude, bon, ils veulent faire partie d'un de tes programmes, puis ils s'en vont avec toi en Afrique. Je veux dire, leur premier réflexe devrait être de se débarrasser de leur téléphone cellulaire, parce que là, ils s'en vont comme une semaine, deux semaines, trois semaines. Je ne me rappelle plus combien de temps ils partent avec toi. Est-ce que c'est facile pour eux de se débarrasser de cette fameuse technologie-là quand ils sont dans un autre endroit dans le monde? Parce qu'en Afrique, mon premier réflexe, ce serait bon, on va prendre des photos, mais là, on relaxe, puis le cellulaire, on va le laisser à l'hôtel, puis on fera nos affaires.
Bien, c'est une bonne question. Puis la stratégie, c'est que c'est ma job, donner des choses suffisamment claires et stimulantes pour que ça ne leur traverse même pas l'esprit d'aller sur leur cellulaire. Donc, je garde leur cerveau actif en faisant des tâches constructives, puis je leur montre comment les faire bien dans n'importe quelle journée d'expédition. Et donc, sont occupés à réaliser des choses. Donc, rappelons-nous, un cerveau là, qui n'a pas de tâche claire avec une forte motivation interne, il va aller tout de suite se loger sur un forcement externe. Donc, l'ennui est un des éléments qui prédit le plus la dépendance ou le fait d'aller s'accrocher à des renforcements externes. Donc, c'est sûr que dans mes expéditions, dans mes programmes, ben, les gens sont bien occupés de plein de tâches concrètes, puis il y a tous des enjeux de socialisation là-dedans, puis l'énergie vient d'ailleurs, ce qui fait en sorte que les gens ne s'en rendent même pas compte, puis ils n'ont pas été sur leur cellulaire depuis deux semaines, puis ils ont oublié ça carrément.
Ouais. Mais je t'en parlais un peu pendant la pause avant de rentrer dans l'émission, tu sais, me concentrer sur une tâche, Guillaume, à 100%, là, sans penser à rien d'autre. Mettons, imaginons moi qui est dans une forêt puis qui coupe du bois, j'ai pas de musique, j'ai pas d'influence extérieure, mis à part la bûche de bois, la forêt, puis moi, puis ma hache. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, là. On a tout le temps notre cerveau. On fait une tâche, mais on a notre cerveau ailleurs. C'est sûr que quand t'es parent, des fois, t'as pas le choix. Faut que tu réfléchisses à plein de choses en même temps. Mais bon Dieu, des fois, que j'aimerais ça juste me concentrer sur une chose à la fois. Ça fait tellement de bien, Guillaume, de se concentrer sur une chose à la fois. Puis je pense qu'on est plusieurs à se sentir comme ça.
Oui, parce que c'est ça. Le cerveau, maintenant, il est habitué d'être multitâche. Puis il est habitué de calculer la perte d'un gain théorique lorsqu'il accomplit une tâche. Donc, mettons en ce moment, je fais une tâche avec toi, je te parle, OK? Je fais que ça en ce moment. Mais il y a une partie de mon cerveau, s'il n'est pas habitué de faire une tâche de façon continue, concentrée, il y a tout le temps une double activation qui est là, qui dit, oui, mais pendant que je fais cette tâche-là, je suis en train de perdre quel genre d'opportunité pendant que je fais cette tâche-là? Donc, ce qui nous distrait de faire une tâche, c'est la peur de perdre des opportunités théoriques ailleurs. Là, tu vas me dire, oui, mais c'est infini les opportunités théoriques. Exactement, c'est infini. C'est pourquoi c'est un leurre. C'est un feeling de perdre quelque chose. Et donc, pour être sûr de rien perdre, on va être partout. Puis la façon d'être partout, le plus vite possible, c'est avec le cellulaire. Ça donne un feeling de surveiller toutes les opportunités possibles et que tu n'es jamais perdant. Mais le problème, c'est que si tu fais ça, tu ne fais jamais de tâche au complet. Donc, exact. Tu es perdant. Mais c'est le concept même de la drogue. La drogue, c'est vraiment renforcer le feeling dans l'instant présent au détriment du futur. Ça, c'est de la drogue.
Ouais, puis...
Donc, ça fait partie de... Comment on essaie de profiter d'un monde hyper technologique, très confortable, avec plein d'avantages technologiques, en étant solide psychologiquement? Ça, c'est vraiment l'axe sur lequel moi, je me concentre. Quel genre d'éducation on a besoin pour profiter d'un monde technologique confortable, mais aussi d'être sain d'esprit et d'avoir une vie qui a du sens sans se faire manger par cette machine-là.
Puis les gens qui nous écoutent, là, Guillaume, qui sont dans l'inconfort, là, ils nous entendent, puis ouais, ils parlent de moi, puis moi aussi, j'aimerais ça arrêter une fois de temps en temps puis me concentrer à une simple tâche sans penser à d'autres choses. qu'est-ce qui fait qu'on a si peur de changer? Qu'est-ce qui fait qu'on a peur du changement? On reste dans notre zone de confort puis on accepte cette souffrance-là parce qu'on se dit, ben au moins cette souffrance-là, je suis capable de dealer avec, mais je ne sais pas qu'est-ce qui arrive l'autre côté de la porte. Ça va être encore plus souffrant? Fait que je suis aussi bien de rester là-dedans. Pourquoi les gens ont une peur de changer?
C'est parce que le changement implique le deuil de renforcement. Puis si tu fais le deuil de renforcement, tu vas avoir une douleur. Tu vas avoir de l'anxiété, tu vas avoir de la tristesse, tu vas être fâché, tu vas être irritable. C'est un processus de deuil. Donc, si tu dis « je vais changer », ça veut dire « je vais arrêter certains renforcements qui m'ont fait sentir bien jusqu'à présent, mais je sens que ça plafonne, cette situation-là. Je dois faire un changement pour aller à une prochaine étape de ma vie. » Ça, ça veut dire que tu dois te sevrer de renforcements connus et tu dois te challenger d'aller dans de l'inconnu théorique. Ça veut dire que tu t'en vas dans un monde où tu dis « j'espère qu'il va y avoir des nouveaux renforcements qui sont meilleurs pour moi, mais je ne les ai pas, je ne sais pas si je vais les avoir, je ne sais même pas ce que ça va faire, même si je les ai. » C'est comme si j'essaie de dire « regarde, je te vends de l'inconnu potentiellement positive ou 100$ tout de suite. » C'est très difficile pour le cerveau de dire « de l'inconnu, mais peut-être être bien, bien bon, ou 100$ là, c'est cash-in. »
Sans effort.
Donc, les gens font comme… Écoute, je le sais pas où c'est que je m'en vais, je n'ai pas le choix. Je vais prendre le 100$, je vais réfléchir, quand je vais être prêt, je vais faire le move. Mais le problème, c'est que tu n'es jamais prêt bâti comme ça. Donc ça, c'est un premier problème, c'est-à-dire on challenge des renforcements réels, puis un deuil qui va faire mal avec pas de nouveaux renforcements de préfète. Donc c'est un méchant leap of faith, c'est un saut dans le vide. C'est ça un changement. Mais il y a des gens qui font des changements, donc qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu aies une meilleure projection de quel va être ton futur. Si tu n'as pas de projection claire, il n'y a même pas aucune chance que tu fasses le deuil du 100$ là versus aller dans le vide pour aller peut-être créer 1000, 2000, 5000 ou avoir d'autres nouveaux renforcements qu'il faut que tu désignes. Donc, la plupart des gens ne savent pas comment se projeter dans le futur. Ils n'ont pas de plan. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas sûrs que ce qu'ils veulent est faisable. Donc, comment tu veux te vendre un futur plus difficile et inconnu si tu n'as même pas ces idées-là clairement? Tu as 0% de chance que tu fasses le saut. Zéro. Tu vas attendre des conditions pour être prête, puis tu vas réussir à créer un monde parallèle, de dire « oui, mais ça s'en vient, c'est juste pour aujourd'hui. » Et c'est le fameux problème de ce qu'on appelle la procrastination. C'est l'incapacité de se projeter, de dire « non, je sais exactement qu'est-ce que je m'en vais gagner, je sais comment je vais y arriver, j'ai plusieurs plans de match possibles, je suis prêt, je sais comment je vais articuler ça. » Quand tu as ça, là, tu es prêt à aller à la guerre, laisser les choses qui sont plus adaptées pour toi et aller dans ta nouvelle phase. Mais tu ne peux pas faire le saut facilement comme ça. Et moi, je n'encourage personne à faire des sauts comme ça sans une exhaustive préparation et projection d'un futur. Sinon, ça ne se fait pas. Tu vas revenir. Aussitôt que ça va être dur, même si tu as le courage de faire le saut, tu vas revenir à la case départ quand ça va être vraiment dur. Parce que tu n'es pas prêt à faire ce saut-là encore. Donc, il faut que tu le désignes.
Mais est-ce que c'est parce que la personne ne souffre pas assez? Parce que je fais un autre rapport là, avec un médecin à qui je parlais, qui me disait, tu sais, Yannick, quand tu essaies d'aider un toxicomane, quand tu essaies d'aider un alcoolique, tu peux pas le comprendre. Tu n'es pas un alcoolique, tu n'es pas un toxicomane. Puis lui, ben il sait que tu peux pas le comprendre, fait qu'il va continuer à faire ses affaires. Le jour, par contre, où il va tomber extrêmement bas, et là, il va te demander de l'aide, ça va être à toi d'essayer de l'accompagner si tu le désires. Mais il faut vraiment que la personne souffre au départ. C'est pour ça? C'est parce qu'on souffre pas assez, Guillaume?
C'est que tu as deux mécanismes pour faire le move, OK? La souffrance ou la douleur, ça va aider pour te dire « fais plus ça, là », parce que ça fait vraiment mal, puis ça va faire de plus en plus mal. Donc, tu peux te servir de la douleur pour avoir peur de cette douleur-là et peur que cette douleur-là amplifie en plus dans le temps. Donc, tu peux t'en servir pour faire un move, mais c'est seulement 50% de l'équation. L'autre 50%, ça reste la projection et la planification du futur pour lequel tu veux travailler. Donc, ça prend deux morceaux. Il faut vraiment que tu sois sûr que là, tu souffres et que tu ne veux plus ça. Plus la douleur est élevée, plus cette décision-là devient solide. Okay? Si tu ne souffres pas assez, le cerveau, il va négocier. Il négocie toujours pour essayer de se sauver des responsabilités. Donc, si tu souffres un peu plus, ça aide. Mais, même si tu souffres beaucoup, si tu sautes dans le vide, dans une planification qui n'est pas faite, tu vas revenir de toute façon parce que le cerveau va revenir au renforcement qu'il connaît, même s'il y a de la souffrance. Donc, oui, souffrir plus, ça aide à te donner un coup de pied dans les fesses, comme on dit, mais il faut que tu désignes un futur jour par jour. Il faut que tu aies beaucoup de connaissances, il faut que tu aies une connaissance de toi, c'est-à-dire il faut que tu saches qu'est-ce que tu vises, qu'est-ce que tu veux vivre. La plupart des gens n'ont aucune idée. Quand j'ai aucune idée, là, c'est vraiment près de zéro. Les gens ne savent pas c'est quoi leur talent, ne connaissent pas leur trait de personnalité, ne savent pas comment ils fonctionnent, ne savent pas leurs préférences, sont tout mêlés, ne savent pas ce qu'ils peuvent choisir, ne savent pas les types d'objectifs. Tu sais, tu ne peux pas désigner un futur si tu n'as rien de plus clair à désigner. Fait qu'une des raisons qui fait la stagnation des gens, c'est qu'ils ne souffrent pas assez. Puis ils ne peuvent pas désigner le futur. Fait qu'ils sont dans une espèce de limbo toute leur vie.
Est-ce qu'ils doivent nécessairement quitter leur environnement pour apprendre à se connaître? Parce que moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, là. C'est-à-dire que tu amènes des gens dans un environnement qui peut être hostile, mais quand même contrôlé en Afrique. Tu sais, on est comme dans un autre mood où on n'a jamais été. On est dans la jungle, on côtoie des animaux qui ne sont pas nécessairement nos amis. On peut craindre ce qui va se passer. On va être fiers de nous parce que finalement, on a réussi à passer au travers de notre journée. On a appris à faire du feu, alors qu'on n'a jamais... Nous autres, on avait un lighter, mais toi, tu leur apprends à faire du feu, se concentrer sur leur principale tâche. Ces gens-là se découvrent au fur et à mesure de l'aventure qu'ils font avec toi, avec toi, Guillaume. Mais en restant chez nous, puis lire des livres, est-ce que c'est aussi formateur? Est-ce que je peux vraiment découvrir la personne que je suis réellement si je ne me sors pas de mon contexte dans lequel j'ai toujours été puis que je me dis, ben, je me suis jamais vraiment connu qui je suis, où vais-je, puis je reste ici, il me semble que ce n'est pas pareil. Se sortir de sa zone de confort, c'est la meilleure des choses à faire pour se découvrir?
Oui. Mais sortir de sa zone de confort sans comprendre ce qu'on vit va pas fonctionner, OK? C'est-à-dire, si tu restes chez toi puis tu lis des livres, ben c'est mieux que zéro. Tu peux apprendre des choses dans un livre, ça peut te donner des idées. C'est pas pire, ça. Tu peux apprendre quelque chose, c'est bien. Mais si tu veux faire des affaires différentes puis créer de la valeur puis faire des comportements nouveaux, ça va prendre une notion comportementale là-dedans, puis il va falloir activer des émotions d'inconfort volontairement. Donc, c'est là où le fait de rester chez nous à lire des livres a une limite.
Okay. Mais pourquoi on ne m'a pas dit ça à l'école, moi, Guillaume? Au primaire, j'aurais aimé qu'il y ait un cours avec un psychologue ou un docteur en psychologie comme toi, là, un doctorat en psychologie, qui vienne me voir puis qui m'apprenne à savoir, ben c'est qui Yannick? C'est quoi ses goûts? Qu'est-ce qu'il aime faire, Yannick? C'est quoi ses forces? C'est quoi ses faiblesses? Puis est-ce qu'on peut travailler sur ces faiblesses-là? Puis si oui, comment faire pour le faire? Il me semble que c'est la base de la vie, apprendre à se connaître, Guillaume.
Oui, mais le problème, c'est que le marketing autour de la psychologie a réussi à s'auto-convaincre que la connaissance de soi, c'est comme verbal, alors que c'est pas ça pantoute. La connaissance de soi, c'est des liens entre la conceptualisation abstraite, donc des mots, des concepts, des choses qu'on voit, qu'on nomme verbalement, mais des choses qu'on vit dans l'action avec les mains sales. Tu ne peux pas te connaître toi-même avec du langage verbal. Et le problème, c'est que si tu essaies de faire ça, tu n'y arriveras pas. Il y a tout le temps un sentiment que quelque chose te glisse entre les doigts, tu te connais encore moins. Puis c'est quoi le pattern qu'on voit dans les dernières années? Ça se cristallise autour des questions qu'on appelle l'identité. Donc, on se dit peut-être que si je clarifie mon identité, je sais dans quel groupe je suis, puis j'ai des bonnes étiquettes pour moi, puis je vais clarifier mon identité, puis je vais choisir. C'est que c'est un cercle vicieux, infini de verbalisation théorique sur ton identité. Puis on pense que c'est de la connaissance de soi. La connaissance de soi, c'est comment tu fonctionnes en situation adaptative. C'est ça. Tu peux bien te dire ce que tu veux, tu peux bien te conter les histoires que tu veux, tu peux bien te dire que tu as vu tel livre. Montre-moi des comportements d'adaptation, de résolution de problèmes complexes en situation hors de confort. Là, on va savoir t'es qui. Là, tu vas savoir t'es qui. Et là, ça commence à être intéressant. Mais verbalement, tu viens à un plafond très, 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 très tôt. Fait que les gens essayent de se connaître verbalement C'est impossible.
Mais les bases de psychologie, j'aurais aimé qu'on me les apprenne à l'école. Puis curieusement, je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, Guillaume, mais à 30 ans, 35 ans, 40 ans, j'ai commencé à lire des livres sur la psychologie, alors que j'aurais tellement aimé pouvoir les lire avant ça. Peut-être que parce que moi, ça ne m'intéressait pas à ce moment-là, puis j'avais d'autres choses à vivre. Mais si on m'avait intégré ça, apprendre à se connaître à l'école, tu sais, qui je suis, comment je suis, est-ce que je peux travailler sur mes faiblesses, puis comment le faire? Ça aurait été tellement génial pour moi puis notre société en général. Là. Est-ce que le taux de difficulté qu'on voit chez les gars de 40, 50 ans serait aussi élevé actuellement? Je ne suis pas sûr. Si on connaît nos patterns, si on sait, OK, ces idées-là, ils arrivent dans ma tête une fois de temps en temps, je devrais peut-être faire telle ou telle affaire pour les enlever, ces idées-là, passer à l'action ou aller rencontrer tout simplement un psychologue. Pourquoi ils ne nous ont pas appris ça à l'école? C'est triste là, quand on y pense.
Bien, tu sais, la psychologie, il y a des écoles de pensée. Dans la psychologie, comme quand tu es à l'université, là, quand tu fais tes cours de psycho, puis quand tu fais ton doctorat, tu as des cursus, puis tu as des écoles de pensée, puis des approches, puis chaque approche a ses propres lunettes pour observer l'humain. Puis chaque approche a ses propres variables typiques, sa propre grille d'analyse. Puis, ces approches-là ne se parlent pas les unes avec les autres. Là. C'est ce qui est, la psychologie comportementale ne jase pas avec les psychodynamiciens, puis ça ne parle pas avec la neuropsie, puis avec la psychologie communautaire. C'est des approches différentes. Fait que ça fait en sorte que si on dit, OK, on veut de la psychologie, on va enseigner la psychologie, la question, c'est quel genre de psychologie tu vas enseigner? Chacun va dire que c'est la meilleure psychologie. Dans chaque département, ils vont dire que c'est ça qu'il faut apprendre. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça prend un genre de mix. Toutes ces approches-là ont du bon. Mais maintenant, moi, mon angle, c'est comment tu intègres...
Guillaume, est-ce qu'on t'a perdu? Ouais, je pense qu'on t'a perdu, Guillaume. Donc, on va faire une courte pause. On va tenter de rétablir la communication avec Guillaume Dulude et on vous revient tout de suite. Merci d'être là.
Marceau, le soir. Rage against le matin.
Monsieur Labeaume, on parle beaucoup d'inertie présentement à la Ville de Québec et puis, vous le cachez pas, point barre, vous aviez pas une bonne relation avec la CAQ. Qu'est-ce qui a chopé tant que ça avec la CAQ?
Ils ont décidé qu'ils se donnaient une stratégie d'être contre les projets de la Ville. Mm-hmm. Alors, pas besoin de te dire que quelqu'un qui est contre les projets de la Ville, quand j'étais maire, moi, ça marchait pas.
En effet.
Alors, j'ai blasté puis j'ai dit « touchez pas à ça ». Puis ils ont perdu. T'sais, j'ai connu 6 premiers ministres, moi, là, ça n'a de rien. Là. C'est parce que Jean Charest, il aimait ça, les projets, lui. J'arrivais à des rencontres, puis Jean Charest me disait, bon, ben, Régis, avant qu'on parle du projet, dis-moi non, combien ça coûte. Que... Alors, c'est pas de travailler avec un premier ministre qui a le goût de développer. C'est vraiment agréable. Là, puis Jean Charest, puis même Philippe Couillard, on a eu beaucoup de plaisir, mais bon, que veux-tu? C'est de même, là, la CAQ, ils sont vindicatifs. Là.
Rage Against le matin. Tous les jours en semaine, 6h. Sinon,
vous retrouvez tous nos coups de circuit sur le blvd.fm.
C'est ça.
Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. Pièces d'auto économique, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Rebestos, Bosch et Mevotech. Pièceséconomique.com. Ce segment d'émission présenté par Pièces d'auto économique. Pièces d'auto économique, c'est des pièces neuves garanties, les meilleurs prix et des grandes marques comme Rebestos, Bosch et Mevotech. Pièceséconomique.com.
Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera 48 millions. Puis en jouant en ligne, vous pourriez être à un doigt de mettre la main dessus. Bon, mettons 2-3, ça dépend de comment vous pitonnez.
En montant dans une Prius hybride branchable toute neuve, vous pourriez tout d'un coup accepter de conduire des amis à un festival de musique au beau milieu de nulle part. Même si la musique est d'un style dont vous ignoriez totalement l'existence avant ce matin, tout ce qui reste à faire, c'est de la ramener à la maison. Pour découvrir de nouveaux modèles épatants comme la Prius hybride branchable, visitez htmatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire du Québec et repartez en Toyota.
Salut, c'est Martin. Je veux vous parler d'une de mes places préférées pour bien manger et passer un bon moment. Le restaurant Ophélia sur Grande Allée. Essayez-le et offrez-vous un tête-à-tête entre terre et mer. Vous serez assurément séduit par leurs plats raffinés, leurs créations audacieuses et leurs cartes de vin. Pour un apéro entre amis ou un rendez-vous romantique, vous devez vraiment vivre l'expérience Ophélia. Votre moment sera inoubliable. Je vous le garantis. Réservez dès maintenant au restaurantophélia.com et soyez pâtés.
manger.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures de gros et gros big.
Non, je peux pas le manger.
Arrête, c'est juste un lapin.
Ben oui, mais regarde-tu les yeux.
Il se mange aussi. Si tu le manges pas, je vais le manger, moi.
Non, 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 c'est bon, je vais le faire.
Pis?
T'as eu raison. C'est du bon chocolat.
Du 17 au 21 avril, c'est le gros week-end de Pâques chez Couche-Tard. Les Body Armor sont à 2 pour 3 $. Le lait au chocolat Béatrice 1 litre est à 1,49. Les caisses de 36 Budweiser et Bud Light sont au prix minimum. Et les caisses de 12 Corona, Heineken et Sapporo sont à 19,99. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Chez Climatisation Paquette, en plus d'avoir un service exceptionnel et un délai d'intervention de 24 à 48 heures, nous vendons d'excellentes thermopompes de marque Mover, Gree et Stelpro. Pour un service après-vente solide et des produits de qualité exceptionnelle, c'est Climatisation Paquette. Visitez climatisationparquette.com.
Ta saison de golf recommence bientôt, mais t'es même pas capable de mettre ton sac de golf sur ton dos?
Aïe, aïe!
Je te recommande personnellement les pros de PCN Physio. Comme moi, fais-toi accompagner pour retrouver le fun de bouger. PCNphysio.com.
On fait de la place chez Marlin Chevrolet Buick GMC. Nous liquidons plusieurs Equinox EV et Blazer EV démonstrateurs avec rabais allant jusqu'à 8000 $. Et ce n'est pas tout! Venez découvrir nos rabais mystères en concession. Marlin Chevrolet Buick GMC au 2145 rue Franck-Carrel.
Vous rêvez de vous évader vers l'Italie et sa gastronomie, de vous ébahir devant les paysages grandioses du Mexique ou encore de découvrir les particularités de l'incroyable culture de la Thaïlande? Trouvez le voyage parfait à la forfaiterie.
Avec tout ce qui se passe autour de nous, on peut-tu juste s'assurer de ne pas s'oublier? De se souvenir de qui on est, nos valeurs, notre culture, notre identité? On peut-tu se choisir? Cette année, je me choisis. Je nous choisis.
Je suis Yves-François Blanchet. L'avenir du Québec ne se décidera pas sans nous. Je choisis le Québec.
Autorisé par l'agent principal du Bloc québécois.
Mercado.fm vous présente son nouveau porte-parole. Qu'on paye pas parce que ça roule déjà très bien.
T'as bien raison! Voici les offres!
Obtenez une nuitée en micro-chalet d'une valeur de 270 $ à 202 $ chez Tanière Micro-Chalet Charlevoix. Ou encore une visite animée pour deux personnes d'une valeur de 50 $ à 25 $ avec les promenades fantômes.
Si ça, ça vous fait pas aller jeter un coup d'œil sur Mercado.fm, c'est parce que vous avez rien compris!
Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
Les rabais de la circulaire d'avril sont arrivés chez Mondou. Épargnez jusqu'à 12 $ sur la nourriture sèche hypoallergène de marque First Choice pour chat ou chien. D'ici le 16 avril, découvrez toutes les offres sur nos produits fabriqués et conçus au Québec, en magasin ou au mondou.com.
Depuis 30 ans, Je reçois traiteur régale le Québec. Boîte à lunch, buffet, barbecue ou repas raffinés, nos menus conviennent à tous les goûts et tous les budgets. Savoureux, bien présentés et parfaits pour chaque occasion. Obtenez une soumission gratuite sur jereçois.ca.
Chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi, c'est l'occasion à ne pas manquer. Offrez-vous l'Eclipse Cross ES 2025 à traction intégrale en location 36 mois pour seulement 178 $ aux deux semaines à un taux d'intérêt de 3,99%. Avec 16 000 km par année et 1 500 $ d'acompte. En prime, bénéficiez d'un plan d'entretien prépayé de 2 ans sans frais. Ne manquez pas cette offre unique chez Québec et Sainte-Foy Mitsubishi au 1000 boulevard Pierre-Bertrand ou au 2830 rue Einstein.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez le savoir en premier. Il se passe rien? Vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On est de retour avec l'excellent Guillaume Dulude. Salut Guillaume!
Salut!
Très content d'avoir retrouvé la connexion avec toi. Faut dire que tu es dans un autre pays présentement.
Oui, mais normalement, c'est très fiable ici. Là. Ça fait partie de ma chance typique là, de court-circuit électronique ou quelque chose comme ça. Mais normalement, c'est la première fois que ça arrive en 5 ans ici. Normalement, c'est fiable.
Mais je t'entends relativement bien, cher ami. Il nous reste encore quelques minutes. Les formations que tu offres, là, parce que je sais que tu fais des conférences. D'ailleurs, tu en avais eu une au Centre Bell qui était juste formidable. Les formations que tu offres aux gens qui veulent embarquer dans ces formations-là, c'est quoi exactement? On me parle de PRECOG.
Oui, PRECOG, c'est une formation de psychologie appliquée qui dure un an. Puis pendant cette année-là, ben j'enseigne différents thèmes qui, selon moi, les thèmes les plus importants à connaître en psychologie. Comprendre les thèmes, comprendre les mécanismes reliés dans notre cerveau qui sont en lien avec ces thèmes-là, comprendre comment les utiliser, comment apprendre à les utiliser dans sa vie quotidienne, pour résoudre des enjeux, résoudre des défis, surmonter des défis, créer un futur, avancer. Donc, c'est un cours général de psychologie qui est quand même assez pointu, mais qui s'adresse au grand public, mais qui vise à bien utiliser notre cerveau dans toutes les sphères de notre vie. Donc, en gros, c'est ça. C'est ça, Précole.
OK. Puis, on s'en va avec toi en Afrique. Ça dure à peu près combien de temps?
En Afrique, ça, c'est pas Précog.
Ah non, okay.
C'est une autre formation. Fait qu'il y a une formation qui s'appelle Précog. Ça, c'est en ligne. Ça dure un an.
Ouais.
Puis l'autre formation en Afrique, ça s'appelle Psychom Origine. Ça dure 10 jours en Afrique du Sud. Ça, c'est un condensé de psychologie, du leadership et d'expédition et de survie en Afrique du Sud.
Et ça, c'est une formation que tu donnes à peu près combien de fois par année?
En Afrique, ça? Entre 4 et 6 fois par année. Donc, il y a environ entre 4 et 6 groupes par année. Normalement, ils sont condensés au mois de mai. Donc, 2-3 groupes au mois de mai, 2-3 groupes en novembre, début décembre. Parce que c'est les deux meilleures périodes de l'année côté température. Fait que c'est ça. Chaque groupe est environ 10-12 personnes.
Et les gens qui embarquent dans ces formations-là, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun qui les unisse tous?
Oui. D'habitude, ça c'est ça l'invitation, c'est si tu sens que tu as besoin d'un petit boost à quelque part dans ta vie, tu sens que tu es stagnant, tu sens qu'il te manque quelque chose, quand tu as ce feeling-là, quand tu sens que tu as besoin d'aller à une autre étape, mais tu ne sais pas trop par quel bout prendre ça, si tu veux être inspiré de nouvelles idées, de nouvelles façons de fonctionner, faut que tu te redécouvres, OK? Faut que tu redécouvres des forces que tu as dans toi que tu ne sais pas utiliser. Donc, ce que ça va faire, Psychom Origine, c'est que ça va débloquer ces choses-là et ça va rendre visible des choses que tu peux faire, que tu ne savais pas que tu peux faire. Et moi, ma job, c'est que ces apprentissages-là se transposent dans ta réalité quand tu vas revenir de l'Afrique. Donc, c'est ça que les gens recherchent. Ils sentent qu'il manque quelque chose dans leur vie, mais ils ne sont pas sûrs c'est quoi.
Et est-ce que ces gens-là reviennent avec un certain changement chez eux dans cette société-ci? Et est-ce que c'est difficile des fois de réintégrer la société normale dans laquelle on était il y a de ça quelques jours puis qui a un peu changé?
Oui, la tendance, c'est que oui. Évidemment, ça dépend de chaque personne. Hein. Chaque personne a sa propre histoire, ses propres tendances, son propre voyage qu'il va vivre, mais la tendance, c'est créé pour ça. Les gens reviennent avec des idées claires sur comment transformer ce qu'ils veulent transformer, sur des choses qu'ils savent maintenant qu'est-ce qui leur convient pas. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent changer. Ils savent comment ils vont le changer. Ils savent ce qu'ils veulent viser. Ils savent comment viser des nouvelles choses. Donc, oui, ça change des choses. Puis souvent, les gens reviennent, puis là, ils corrigent des choses qu'ils réalisent qu'ils n'étaient pas alignés avec eux autres. Ils savent comment les corriger. Ils redressent les choses, puis il y en a beaucoup qui font des gros bons là, dans leur vie au retour. Oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent.
C'est un gros événement que tu as fait au Centre Bell. Il y a eu des milliers de personnes qui se sont présentées pour ta conférence. Est-ce que dans les prochains mois, les prochaines années, tu as l'intention d'en refaire d'autres de ce type de conférences-là?
C'est drôle que tu parles de ça. Je vais te dévoiler quelque chose en grande primeur parce que j'ai eu le meeting officiel hier. Il y a des choses qu'il faut que je me retienne pour ne pas te dire parce que c'est bien excitant, mais comme ce n'est pas encore signé, il faut que j'attende un peu. Le prochain événement Y, comme ce qu'on a eu fait au Centre Bell, on va faire un format différent pour l'année prochaine. Ça va être toujours en octobre, mais je vais le faire aux États-Unis. Je vais le faire en Californie. Mais ça va être en ligne pour ouvrir ça à plus de gens, réduire le prix des billets, que ça soit plus accessible et que ces dons-là puissent servir également à des causes là, qui vont aller à la fondation que je suis en train de mettre sur pied, puis c'est comme futur. Fait que c'est ça. Fait que ça va avoir lieu, ça va être en ligne. Et l'objectif, c'est de réduire le coût des billets, réduire les coûts associés à ça. Le Centre Bell, c'est bien le fun, mais c'est bien stressant, c'est beaucoup de logistique. Puis, veut pas, on est super content qu'il y ait eu 5 500 personnes, mais L'objectif, c'est plus d'en avoir 500 000 que 5 000. Fait que la façon de faire ça, le présentiel a des limites. Puis là, cette année, bien, on veut le faire en anglais avec des traductions simultanées. Mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, mais j'ai jamais vraiment travaillé dans d'autres langues parce que j'étais bien occupé avec le français. Mais là, il faut que je mette du temps là-dessus parce que ça fait partie de notre mission. Donc, oui, ça va avoir lieu de façon différente. Je ne peux pas vous parler des invités encore. C'est en discussion, mais ça va être gigantesque. Je peux vous dire ça.
Parce que ça va être dur de battre les invités de la dernière fois, là, mais là, il va falloir que ce soit encore meilleur.
On veut toujours que ce soit meilleur, puis c'est ce qu'on vise. Ouais. C'est rien de moins que je veux.
Hey, Guillaume Dulude, je te remercie pour ton temps ce soir. Je te souhaite de passer une belle fin de soirée. Je ne sais pas il est quelle heure où tu es là présentement, mais un gros merci d'avoir pris le temps de nous jaser. On a réussi à faire l'émission complète dans un Internet qui était un peu incertain. Fait qu'on on va se reparler la prochaine fois, cher ami. Un gros merci.
Ben merci, c'est toujours un plaisir d'être invité par toi. Merci énormément pour les discussions.
Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Guillaume Dulude, ton entreprise, on va directement sur communicationpsicom.com?
Effectivement, ou sur mes plateformes de médias sociaux, Guillaume Dulude, Psicom. Vous allez tout trouver là.
Je souhaite à tous une excellente soirée, de même qu'à toi, puis on se reparle demain, les amis. Salut tout le monde. Bye-bye.
Marceau, le soir. Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera 48 millions. Puis en jouant en ligne, vous pourriez être à un doigt de mettre la main dessus. Bon, mettons 2-3, ça dépend de comment vous pitonnez.
Chez Polestar Ville de Québec, nous disons non. Non au compromis. Non par pure conviction. À vous, propriétaire de Tesla, qui aviez envie de dire non à votre manière, nous vous offrons jusqu'à 5 000 applicables sur une Polestar 2 ou un Polestar 3. Envie de financer votre nouvelle Polestar? Nous y ajoutons notre offre alternative au comptant de 15 000 pour un rabais total pouvant atteindre 20 000. Faites le saut vers Polestar sans tarder en visitant Polestar Ville de Québec, votre destination 100% électrique.
Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez lejustepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec.
L'Institut Diva, au service de votre bien-être depuis plus d'une décennie. Passez voir notre nouvelle succursale sur 4 Bourgeois. Nouvelle adresse et nouveau décor, mais avec la même équipe attentionnée. Les nouvelles clientes sont bienvenues en service d'esthétique, coiffure et massothérapie. InstitutDiva.com.
Imaginez un réveil sans réveil. Tous vos soucis qui s'envolent. Et la magie des bonheurs complices. Voilà, vous ressentez le nouveau Brunswick.
C'est la semaine Rona. Pour l'occasion, Mike chez Rona vous attend avec des promotions parfaites pour démarrer le printemps. Jusqu'à mercredi, économisez 25% sur tous les formats de teinture extérieure Olympique Summit et Maximum et sur tous les planchers de vinyle Monocera sélectionnés. Les promotions parfaites pour donner un peu d'amour à votre maison puis sortir dehors profiter du soleil. Et pour d'autres promotions ou conseils d'experts, allez voir Mike
chez Rona. Les conditions s'appliquent. Trouvez plus d'offres sur rona.ca.
Chez Leclerc Communication, vous le savez, on est une grande famille.
Une grande famille d'étranges personnages, ouais.
Mais tellement attachants. Et c'en est de même pour nos trois nouveaux. Souhaitons la bienvenue à Élisabeth Boulay en tant que chef terrain. Elle rayonne et adore quand ça bouge. On est ravis de te compter parmi nous. Mélissa Audi joint aussi notre équipe comme coordonnatrice aux promos. Elle est attentionnée, dévouée, elle amène des cupcakes puis elle répand la joie au bureau. Et finalement, Kaylen Bélanger rejoint le département technique. Ses deux parents travaillent aussi en informatique, fait qu'on peut dire qu'il y a ça dans le sang.
Bienvenue à vous trois et bon succès chez nous.
Pour joindre la gang en onde par téléphone 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
L'achat de ton prochain VUS pour maximiser ton temps, ton argent et pour un service après-vente personnalisé,
c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. On a la plus grande gamme d'utilitaires sport. Que vous cherchiez le grand luxe, l'électrique ou un bon rapport qualité-prix,
on a plus de 17 modèles différents en inventaire
pour tous les styles, tous les budgets, prêts à livrer.
Chevrolet, Buick, GMC, Hummer.
Le choix incontournable pour ton VUS à proximité de Québec. C'est l'équipe de Germain Chevrolet, Saint-Raymond.
Ouvert le samedi.
mardi.
Je ne suis pas juge, juste avocat.
Plongé dans une comédie policière unique. Ne manquez pas la nouvelle série Événements Carpe Diem, les mardis 20h, en exclusivité sur Max. Abonnez-vous dès maintenant.
Pour un achat ou un renouvellement hypothécaire, MRL Hypothèque trouve toujours les meilleures options pour votre financement. Et leur conseil en ce moment, c'est de geler votre taux avant qu'il n'augmente jusqu'à la fin du printemps. Faites-leur confiance. Appelez MRL ou visitez mrlhypothèque.ca.
Enfin, le Kimono de Charlebourg, situé dans l'ancien local des Frères Toc, est maintenant ouvert 7 soirs et tous les midis du lundi au vendredi. De plus, vous pouvez maintenant profiter du comptoir pour emporter. Commandez en ligne pour la livraison ou passez le prendre. Visitez kimono.ca.
Retour des promos printemps au Club Avantage Multisport. 3 mois, tous les services, gym, workout, spinning, tennis, badminton, yoga, 139 $. Halte garderie et semaine d'essai gratuite. Visitez-nous à clubavantage.ca.
Le Québec.